Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 39. Cette émission est avec Fadil Abrahimi, responsable éditorial du blog Personal Branding, PDG de FB Associé, coach en stratégie de présence, certifié par l'ICF et une grande conférencière, je peux en témoigner. Dans cet entretien, nous allons discuter de l'importance et des enjeux du personal branding. C'est un beau sujet à suivre. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue.
Bonjour, je suis Minter Dial du Minter Dialogue Radio Show et je suis dans un restaurant un peu bruyant, vous entendrez peut-être des enfants derrière, dans le 6e arrondissement avec Fadila Brahimi. Alors Fadila, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le virtuel qui nous a amené à se rencontrer dans le réel, ça se fait couramment. Fadila est autrice, auteur du blog Personal Branding, est aussi quelqu'un qui est très suivi sur Twitter, si vous ne la connaissez pas, c'est F. Brahimi, qui a presque 10 000 fans, évidemment est très présent sur Facebook avec plus de 2500 followers, et aussi également avec le même nombre sur Google+. Donc c'est quelqu'un, on peut dire, une femme du web. Alors Fadila, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais pour ton métier et qui tu es?
Alors merci déjà Minter pour me présenter. Je peux faire de manière très académique en te disant que je dirige le cabinet FB Associé, que je suis chroniqueuse sur We Do Biz, donc effectivement aussi blogueuse et puis co-auteur, parce qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui vont sortir donc prochainement. Mais je peux aussi être un peu plus poétique et te dire que je suis un peu metteur en scène de talent et de valeur. Hein, donc je travaille beaucoup en fait, j'accompagne des personnalités, généralement pour gérer leur présence, leur influence, leur notoriété, on et offline. Et puis j'interviens également en entreprise, généralement pour travailler sur l'identité humaine en fait, de la marque et coacher un peu les équipes de com online.
Ce qui est marrant, parce que toi, ton blog s'appelle blogpersonalbranding.com. Le mien, c'est The Mindset, mais le sous-titre, c'est Branding Must Get Personal. Le branding doit devenir personnel, donc on se retrouve beaucoup là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous parler, parce que comme tu es une femme tellement branchée et bien suivie, comment est-ce que tu gères tout ça? Parce que évidemment, c'est énorme. Enfin, vis-à-vis de moi, t'as 5 fois plus de followers sur Twitter. Et comment est-ce que tu arrives à t'en sortir avec autant de connexions partout?
Il est important de dire que le nombre, il est aussi lié aux années, et dans le sens où j'ai commencé dès 2004-2005 à intégrer la blogosphère et les réseaux sociaux, donc c'est important de souligner qu'il y a du temps en fait passé. Ce temps, il est à la fois sur le web, mais il est aussi dans la vie de tous les jours, à savoir une démarche, on va dire, régulière de relier le on et le off, c'est-à-dire la vie physique comme la vie web, pour mettre de la cohérence et une forme de cohérence presque en temps réel hein, de son réseau. Si on a été connecté dans la vie physique, pourquoi ne pas continuer finalement dans le virtuel et vice-versa? Comment je fais concrètement? Tu veux une journée type, c'est ça? Ma journée type, généralement, en fait, je me lève déjà très tôt. Je me lève entre 5h et 6h. D'autres vous diront qu'il m'arrive de me lever même beaucoup plus tôt que ça. Ça dépend des jours. Et je commence toujours par faire en fait une veille. Je fais le tour à la fois de la presse traditionnelle et puis de la radio et également en fait des blogs français et étrangers. Alors un petit peu étrangers. Et pour déjà m'informer, de savoir s'il y a une information nouvelle. Et généralement, après, j'essaye d'aller sur mon blog. J'ai dit j'essaye parce que j'avoue que j'y vais pas forcément tous les jours. Il y a des jours j'ai vraiment la pêche pour écrire, j'ai l'énergie, la créativité pour écrire, et d'autres pas. Donc je vais ensuite écrire un article et parallèlement, je dis bonjour déjà sur les réseaux pour dire que je suis connectée. Ça permet à un certain nombre de personnes de savoir que je suis déjà sur la place et que s'ils ont envie de partager quelque chose ou dialoguer, c'est tout à fait possible. Ensuite, je prépare en fait les envois que je veux faire dans les différents réseaux. Et puis après, je me mets vraiment sur mon activité de chef d'entreprise, mes emails, enfin ce que j'ai à faire. Et je prends ma to-do list, une to-do list que je fais des fois virtuellement, mais j'adore le stylo. Donc je regarde ma petite to-do list parce que j'ai un plaisir fou de faire des croix pour dire j'ai fait ça et de programmer en fait ma journée.
Alors, donc si je comprends bien, donc la création de ta réputation, ça s'est fait dans la durée, puisque tu étais là il y a longtemps. Deuxième chose, tu me dis, c'est qu'il y a un croisement entre l'off et l'online, donc c'est pas que du virtuel. Et après, par rapport à ta matinée, comment est-ce que tu fais ta veille? Quels sont les outils que tu utilises pour communiquer avec ta communauté? Concrètement, quels outils? Et ton to-do list, tu utilises ton stylo ou est-ce que tu utilises d'autres outils?
Évidemment, je n'utilise pas que mon stylo, parce que ce qui est important en fait, sur le web, c'est quand on trouve plein d'informations intéressantes, il faut surtout pas en fait les mettre dans les espèces de favoris qu'on avait avant parce qu'on se retrouve avec une liste en fait ingérable. J'utilise plusieurs outils. Alors j'ai une petite faveur pour un outil français qui est peu utilisé, mais je vais faire un petit clin d'œil parce que c'est bien aussi de pouvoir promouvoir des startups françaises, qui est YouLink. Parce que je bookmark, c'est-à-dire que je fais un marque-page, je choisis un article et je dis ben celui-là je vais le ranger et je vais classer suivant en fait un mot-clé qu'on appelle un tag. Et puis des outils traditionnels comme Dig, D-I-2-G, ou j'ai aussi mon Google Reader qui me permet aussi de suivre les personnes, enfin les blogs que j'ai l'habitude de suivre. Ça, je l'utilise beaucoup. Et puis, de nouvelles explorations sont apparues en fait cette année, issues de la curation, à savoir des outils qui me permettent presque de découvrir des informations de la part de personnes que j'aurais pas, enfin qui font pas partie forcément de mon réseau, mais on partage, on va dire, des thématiques communes. Alors il y a Scoop.it qui me permet aussi, par rapport à des thématiques précises. Et là, c'est vraiment assez important parce que dans la recherche d'informations, on peut vite s'égarer. Et Scoop.it, c'est une revue de veille que j'ai créé plusieurs revues de veille sur des thématiques qui, pour moi, sont vraiment mes centres d'intérêt, mes centres de recherche.
C'est quoi tes centres ?
Ben, en ce moment, j'ai les visages de la réussite. Je cherche à trouver des personnes qui témoignent sur comment ils ont osé réussir. Comment ils ont trouvé, on va dire, ce déclenchement, et puis aussi comment ils ont pu rebondir après un échec. J'ai 306 jours femmes, et ça c'est pour dire que la journée de la femme c'est tous les jours, et donc pour essayer de mettre à l'honneur, on va dire, des femmes et justement comment elles parlent de leur manière de gérer aussi leur image. J'ai autour de la stratégie de présence, et puis un autre truc qui est plus coup de cœur sur l'Algérie, puisque j'ai participé à un certain nombre d'événements qui ont, on va dire, pas simplement initié, mais que on a, parce que ça existait auparavant, mais on a créé la semaine du web. Voilà, Farid Arab de Pure Player a créé ça. Je l'ai aidé sur la partie com et j'y suis allée. Et donc maintenant, je continue à suivre toutes les initiatives qui sont faites aujourd'hui en sous forme d'intelligence collective, voilà, en Algérie. Voilà, c'est des thématiques comme ça. Donc Scoop.it m'amène, on va dire, des informations sur ces thèmes-là. J'ai aussi Palm Trees aussi qui me permet aussi de découvrir aussi des dossiers thématiques. Alors bien sûr, tout ça fait beaucoup. Il faut savoir qu'en fonction de mon temps, je privilégie d'abord mon blog et les thèmes de recherche, et ensuite j'accueille, je dirais, d'autres informations un peu plus larges.
C'est vrai que dans la gestion de son temps, il faut savoir ce qu'on veut et puis privilégier ce qui est important, et puis après on fait ce qu'on peut par rapport au temps qui reste, n'est-ce pas? Alors par rapport à ça, tu as dit l'Algérie, donc je sais que tu as participé au TEDx en Algérie. Parle-nous de ton expérience et de quoi tu as parlé dans son TEDx.
Ah, j'ai eu la chance de faire deux TED cette année, en plus deux TEDx. J'ai fait Alger, puis j'ai fait Bordeaux. Sur Alger, mais c'était sur l'esprit d'entreprendre. Et j'avais en fait pour ambition à la fois de faire comprendre que l'esprit d'entreprendre, il était partout, il n'était pas que dans l'entrepreneuriat. L'esprit d'entreprendre, c'était aussi peut-être aussi ajouter beaucoup d'intuition, de rêve, hein, l'autre côté du cerveau, et plus que en fait la partie gestion, prévoir et compagnie, et que justement on pouvait pas forcément prévoir. Et puis avec un message aussi particulier aux Algériens, c'était aussi un appel à créer votre propre modèle, quoi. C'est bien de regarder ce qui se passe aux autres, mais ailleurs, on va dire, mais aussi de créer votre propre modèle. Alors pour l'expérience, superbe. De faire une, il y a plusieurs niveaux en fait intéressants dans le TEDx. D'abord parce qu'on sait qu'on va intervenir dans une journée particulière et spéciale où les gens viennent découvrir différentes idées, mais des idées qui doivent normalement leur permettre de rebondir vers quelque chose d'autre. Et donc il faut arriver avec quand même une démarche un peu nouvelle. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que c'est un exercice de style. Donc, on n'arrive pas pour montrer un PowerPoint et dire, bon, voilà, point 1, point 2, point 3, point 4. On raconte une histoire et on essaie justement de faire passer, on va dire, des émotions et de créer une synchronicité avec le public dans un temps extrêmement court, puisque c'est un exercice de 9 à 18 minutes, quoi. Donc, c'est très court. Et puis c'est une véritable aventure humaine parce qu'on se retrouve à plusieurs issus de disciplines différentes, et en très peu de temps, eh bien en fait on forme une équipe de rugby ou de foot, c'est comme vous voulez.
C'est formidable. Alors Fadila Brahimi, donc qui a parlé aux deux TEDx, je corrige, j'en rêve, je trouve ça formidable. Tu as parlé de créer ou de parler d'un modèle pour les Algériens. Et dans ton premier sujet de curation sur Scoopy, tu as parlé de les visages de succès, si je comprends bien. Alors, ça me fait penser à en France, un point qui m'a toujours chagriné, c'est quand il y a un manque de modèle. Quand je dis ça en américain, c'est un role model, c'est-à-dire un modèle après lequel auquel on regarde tout le temps, enfin, d'après lequel on veut s'inspirer. Donc, notamment, ce serait quelqu'un, on va dire, ben, j'aimerais être comme lui ou j'aimerais être comme elle. Et en France, qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que je pense qu'il y a un vrai besoin pour un individu, que ce soit un enfant ou quelqu'un en entreprise, d'avoir quelqu'un duquel on peut s'inspirer. Est-ce qu'il y a aussi un chemin pour ça en France?
Oui, bien sûr. Et c'est culturel, hein, parce que des modèles, on en a. En fait, mais ils sont cachés. D'abord, il y a un prisme culturel en France. Hein. C'est vivons cachés, vivons bien pour être heureux, quoi. Et puis on est aussi dans un pays de coupeurs de tête. Enfin, avant. Mais bon, ça reste quand même dans la culture. Non, mais grosso modo, en France, le problème, c'est que dès qu'on est mis en avant, soit on est associé à un côté people et peut-être justement est un peu éphémère, un peu fabriqué,
un peu gringling.
Gling-ling, et on quelque part, même on a un petit peu sali quelque part cette idée de star qui, je sais pas, moi j'ai des images et là, d'un seul coup, ça m'échappe, je trouve plus le nom, mais de stars françaises qui ont perduré, parce que l'idée de star, normalement, c'est de perdurer et le talent, et voilà. Donc on en a, mais soit ils se camouflent, hein, parce que justement, sous l'adage qu'il faut vivre caché, soit ils se camouflent aussi parce que de toute façon, dès qu'on a, on élève, on va dire, des personnes à l'image de modèle, souvent, en fait, en France, derrière, on a besoin de casser les modèles, quoi. C'est comme si que tout le monde devait être aligné, on va dire, quelque part, ni être trop parfait, ni être trop bon, ni être trop mauvais non plus, parce que quand on regarde bien, en fait, ni on parle de réussite en France, de modèle de réussite. Mais on ne parle pas non plus du modèle de l'échec comme une expérience pouvant permettre, on va dire, de grandir. Mais c'est l'échec, on est blacklisté, ça y est, c'est terminé, on est un loser. Et il n'y a pas cette idée de dire, oui, j'ai eu un échec. On a du mal à le dire, ça. On peut regarder, en fait, des millions d'articles français. J'ai échoué, j'avoue, j'ai échoué à telle période, j'ai échoué dans telle et telle expérience, mais j'ai pu rebondir. Les deux, en fait, aujourd'hui, sont occultés. Ce sont deux sentiments que l'on... Voilà, à la fois le sentiment de fierté, comme le sentiment, on va dire, je pourrais dire de... tu m'aides à trouver, mais d'indulgence vis-à-vis, on va dire, de l'échec aussi.
Alors, dans Fadila Brahimi, que tu as crassé ta propre trace, j'ai envie de dire, qui sont pour toi des inspirations? Est-ce que tu as des modèles auxquels toi tu t'inspires ou qui t'ont parrainé, qui sont importants pour toi?
Génial. Est-ce que j'ai un héros? On m'a posé cette question lors de ma première formation de coach et je suis restée vraiment baba parce que j'ai dit non, j'ai pas un héros, j'ai des héros, j'ai plusieurs modèles, on va dire. Je pense qu'il y a plusieurs personnes et, ou des phrases, parce que bon, comme Pierre Curie ou autres, je les ai pas rencontrés, mais qui ont marqué ma vie en fait. J'ai mes parents. Je crois que ça, c'est quand même, c'est vrai. C'est pas du discours, c'est une réalité. Mes parents comme mes grands-parents. Et puis après, à différentes étapes dans ma vie, j'en ai eu. Et je pense que sur cette dernière partie, là, on va dire plus récente de ma vie, des gens comme Henri Kaufmann et ces échanges m'ont permis vraiment d'avancer. Donc, c'est des mentors. Et je crois qu'on doit avoir plusieurs mentors. J'en ai plusieurs. En fonction des différentes étapes de ma vie. Et voilà, donc j'en ai au moins cité un déjà.
C'est bien. C'est important de pouvoir le connaître et l'expliciter pourquoi. Et ça fait partie du trajet de se auto-connaître et de s'améliorer, je pense. Alors, dans quelques mois, je vais animer quelques ateliers. Excusez-nous pour le matopiqueur qui est derrière. Dans quelques mois, donc, je vais animer des ateliers au Women's Forum à Deauville. Et dans un, c'est sur la gestion de sa vie dans les temps qui courent, les 24-7. Et donc, je voulais te parler de quelles consignes pourrais-tu donner par rapport à la gestion de sa présence en ligne d'abord. Il y a trois sujets dont j'en ai parlé sur cet aspect.
Alors sur les femmes, peut-être un des points les plus marquants qui réunit, on va dire, toutes les femmes que j'ai accompagnées, j'ai souvent trouvé, surtout quand elles sont à des postes extrêmement élevés, quoi, les executives, women, on va dire, sont des femmes qui finalement montrent plus de l'austérité parfois, on va dire, dans le reflet de leur image. Alors quand je parle d'austérité, c'est que on voit en fait tout un parcours extraordinaire avec des titres et des fonctions. Et toute la partie sensibilité, la partie peut-être même tout simplement hobby, est complètement occultée, quoi. On ne voit plus. Pourquoi ? Parce que on a tellement besoin, on va dire, de prouver quelque part qu'on est bien là où on est et qu'on a bien validé les étapes. Parce qu'en France, c'est très important de valider un certain nombre d'étapes. Hein. Il faut être membre de certains conseils d'administration, il faut avoir tel ou tel diplôme, issu de tel club ou tel groupe. C'est essentiel que tout cela, en fin de compte, eh bien, devient prédominant et on ne voit plus derrière, en fait, toute la sensibilité féminine.
Ben dans ce cas-là, ce que je comprends, c'est qu'on est en train de vivre où, en tant que femme, on se plie aux règles masculines. C'est-à-dire, c'est un milieu où on est strictement professionnel, académique. Moi, j'ai fait telle et telle école, j'ai eu tel et tel poste. Et la personne qui est derrière ça est occultée. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable dans l'entreprise aujourd'hui en France ?
Faisable, il faut provoquer en fait aujourd'hui. Hein. Il faut provoquer un peu ce changement parce que je vais dire quelque chose de très bateau, mais c'est vrai qu'un homme qui a des enfants, ça rassure parce que se dit il est dans un cadre familial, alors qu'une femme, on se dit oulala, elle est problématique. Et ces images-là, bah, elles sont encore là, quoi. Même s'il y a des petites avancées, elles sont encore là. Et les femmes, en plus, entre elles, sont parfois aussi même dures entre elles, parce que, petite indication, hein, on disait récemment que les femmes n'étaient pas assez présentes, on va dire, dans les conseils d'administration, et en même temps, quand on pose la question aux femmes si elles veulent être présentes dans les conseils d'administration ou à des postes assez élevés, 40% d'entre elles disent qu'elles veulent pas plus de responsabilités. Donc il faut aussi faire attention à cela, c'est que le choix de vie de chacun diffère. Enfin, en tout cas, les femmes n'ont pas forcément toutes la même représentation de la réalisation professionnelle et du succès. Et que le succès, parfois, c'est justement trouver un équilibre, peut-être, entre ses ambitions professionnelles et puis ses ambitions purement personnelles, familiales, on va dire, ou sociales.
Ça fait partie de... Tu me balances... tu me lances la prochaine étape, c'est comment est-ce qu'on peut vivre dans une entreprise et accepter ce côté personnalité, la personne qui est derrière ça. Parce que j'ai toujours eu cette impression qu'il y a une séparation entre le professionnel et le personnel. Alors pour des femmes, mais aussi pour des hommes, comment est-ce qu'on arriverait à rajouter sa personne, tout ce qui est personnel, dans le cadre du travail ? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ? Quelles consignes on peut donner pour arriver à accepter ce côté non académique, non entre guillemets, que strictement professionnel.
Bah écoute, moi j'ai moi-même fait ce propre chemin, puisque je me suis aperçue d'une chose, c'est que quand je suis devenue cadre assez jeune, très rapidement en fait j'ai adopté aussi, même dans ma tenue vestimentaire, quelque chose de très strict, parce que je voulais tellement qu'on me regarde dans les yeux et pas ailleurs en fait à l'époque, surtout je travaillais en compagnie aérienne. Donc, et je me suis aperçue qu'au bout d'un moment, même dans mon discours, je n'exprimais plus les choses par le cœur, mais uniquement par la fonction cérébrale. Et donc, je pense que déjà, il y a cette première démarche de plutôt dire aujourd'hui, je l'ai dit, voilà, j'ai procrastiné, ou il y a quelque chose qui m'a réellement ému, c'est d'intégrer en fait ce vocabulaire un petit peu de l'émotion également dans le discours. Après, comment le faire ? Je pense que les femmes sont douées pour faire plein de choses en même temps, mais il y a une chose qu'elles ne font pas. Elles savent tout à fait programmer ce qu'il faut prévoir pour la maison, d'un point de vue administratif, enfin tout ce qu'on veut, logistique, prévoir pour les autres, etc. Mais une chose qu'elles n'intègrent pas dans leur emploi du temps, c'est un temps pour elles. Et je questionne très souvent des femmes, je leur dis, mais ça vous arrive de programmer dans la semaine 2 heures ou 1 heure et demie de bain ? C'est-à-dire un truc où on fait que pour nous, quoi, essentiellement pour soi. Et vous verrez que la plupart du temps, on se dira, j'ai pas le temps, et de toute façon, si je prends mon bain, on va m'appeler, enfin mes enfants m'attendent, et elles vont culpabiliser aussi. Et pour preuve, c'est que la plupart des femmes qui sont, par exemple, à 35 heures et qui prennent, par exemple, des fois des demi-journées ou autres, c'est souvent le mercredi. C'est jamais le mardi ou jeudi pour une séance d'épilation. Donc je pense qu'un des challenges pour les femmes, justement, c'est de pouvoir réintégrer des temps pour elles et pour elles-mêmes, comme le fait l'homme. Hein. Je pense que quand il a envie de faire, je ne sais pas, une séance de tennis, de foot ou n'importe quoi avec les copains, il le fait, quoi.
Je suis d'autant plus... je suis totalement d'accord. En tant qu'homme, je pense que l'homme aussi a besoin de penser à lui, de plus en touche avec lui-même, ce qui permettrait de vivre sa personnalité plus amplement dans l'entreprise. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dissociation avec ma personnalité et ce que je dois faire professionnellement. Et ce que j'entends dans ce que tu as dit, c'est d'afficher, d'assumer sa personnalité davantage et d'accepter aussi l'échec et ses faiblesses. Mais à partir du moment où on ne peut pas faire figurer dans un discours ses faiblesses ou ses échecs, on est en train, un, d'ignorer le besoin de s'améliorer, et deux, on est en train de projeter une image de perfection, ce qui n'amène pas de l'humanité, et ce qui n'est pas juste pas possible. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, plus on est capable d'accepter, assumer cette imperfection, plus on devient humain, plus la gestion devient plus normal, et on n'a pas cette idée que je dois être le boss, je me comporter comme un... Ouais.
Ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que ce discours-là, il y en a beaucoup qui l'ont déjà entendu, probablement, et qui diront oui, c'est facile à dire, et que c'est vrai. Mais en fait, c'est notre responsabilité de faire bouger les mentalités, parce que le système ne bougera pas de lui-même. Et là, nous sommes face, en fait, justement, à des prismes, et c'est tous individuellement. Nous devons le faire, en fait, pour pouvoir faire bouger, parce que sinon ça bougera pas, quoi. Ça va pas devenir. Il faut pas que ça vienne de la loi ou que ça vienne d'une règle ou je ne sais quoi. Il faut que ça vienne d'un propre management, enfin de la personne elle-même, quoi. Et de pouvoir justement alterner, quoi. C'est pas parce qu'à un moment donné on exprime un sentiment, ne serait-ce que je ne sais pas ou je ne vois pas comment faire, que pour autant on est en fait d'une manière globale, on va dire, incapable de. Et c'est ça qu'il faut faire bouger.
Alors j'ai le temps court, donc je voulais juste poser deux dernières questions. Le premier, c'est Google+. Est-ce que ça va remplacer Facebook, oui ou non?
Le grand débat du moment. Google+, je pense, en fin de compte, on le compare beaucoup à Facebook et Twitter, et que finalement, je pense qu'ils se sont aussi inspirés de d'autres outils, je pense à Quora ou autre. Ce que je crois surtout, c'est que Google a vraiment fait un pas en avant sur la gestion de l'identité. Que c'est quand même aujourd'hui le moteur de recherche le plus utilisé. Que dans Google, Google en fait aujourd'hui a un module qui s'appelle Profiles, donc le profil Google. Donc je ne sais pas si Google+ va réellement marcher, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inscrits mais très peu d'actifs. en tant que, je ne sais pas si ça va vraiment marcher en tant que réseau social, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas ignorer qu'il y a en fait aujourd'hui une possibilité de créer un profil qui est très très bien référencé avec Google, qui en plus s'adjoint des autres fonctionnalités de Google, notamment de Picasa ou autre. Et si vous regardez bien sur le profil, il y a possibilité de créer un pressbook, hein, donc de pouvoir vraiment, on va dire, transformer, on va dire, son profil Google Plus via son profil Google pour avoir en fait un profil de référence et qui soit très bien, on va dire, placé dans les résultats des moteurs de recherche.
Donc, pas contribuer forcément à ta réputation en ligne.
Exactement, réputation en ligne, en tout cas l'image et, que l'on renvoie, on va dire, sur Google. Voilà.
Alors, Fadila, tu vas, merci pour ça, tu vas bientôt sortir un livre. Est-ce que tu peux nous parler en amont de quel est ton livre et pourquoi tu l'as sorti?
Ah oui, alors donc je sors en octobre, moi 2.0, tu vois, c'est un titre extrêmement court, et il n'est pas de moi, il est de Dan Schobel, puisqu'il s'agit d'une adaptation du livre Me 2.0. Dan est considéré aux États-Unis comme le pape du personal branding, en tout cas selon le Time. Et il a écrit donc un livre qui marche très très bien, c'est la deuxième édition, et les éditions Le Duc sont venues me solliciter pour le préfacer et puis également pour l'adapter. Alors qu'est-ce que ça veut dire adapter ? Eh ben, nous sommes quand même sur un ouvrage en fait écrit par un Américain, et c'était comment, on va dire, faire en sorte que son discours soit entendu et puisse également avoir en fait une réalité française, hein, transposer les outils, transposer même le vocabulaire, enfin il y a pas mal de choses. Voilà, ce livre je l'ai écrit parce que Dan, ça fait longtemps en fait que je suis en lien avec lui sur le web. Je crois qu'on a énormément de points communs. On a déjà notre l'URL de notre blog, mais aussi notre vision du personal branding, qui est une vision qui allie à la fois un travail de recherche personnelle, hein, d'introspection, d'affirmation de soi, mais cette affirmation de soi, elle doit aussi s'exprimer, on va dire, sur le web, en utilisant des outils multimédia. Et je pense qu'on est un peu tous les deux pareil, un peu explorateurs, à tester les outils et d'en voir aussi l'utilité, comme là on vient d'en parler de Google Plus et comment je peux moi l'utiliser pour au service de mon projet professionnel. Et quoi dire de plus, sinon que je trouve que c'est un bon bouquin parce que il est à la fois guide et en même temps c'est une histoire. En fait, il raconte son histoire, c'est le storytelling, quoi. Et il a marié les deux. Et j'ai beaucoup travaillé dessus et j'espère que voilà que ce sera un succès.
On l'attend avec impatience, Fadila. Alors, pour ceux qui écoutent, comment est-ce qu'on peut te suivre? Dis-nous les meilleurs moyens de te suivre, de te connecter avec toi.
Si on veut me pister, alors écoutez, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez sur fadilabrahimi.com. Donc Fadila avec un H et Brahimi aussi avec un H, mais Google me connaît bien en fait. Hein. Donc fadilabrahimi.com, et là vous allez voir un certain nombre de liens de différents blogs. J'ai Fadilive par exemple, où je raconte, je tweet live des événements, parce que j'adore faire ça. Vous avez un blog sur les stratégies de présence, le blog sur le personal branding, et puis je suis beaucoup sur Twitter, beaucoup plus sur Twitter d'ailleurs que sur Facebook, mais je publie également. Voilà, je pense que sur fadilabrahimi.com, vous trouverez en fait beaucoup de liens et vous pourrez faire votre choix.
C'est sûr. Fadila, c'est quelqu'un qui est facile à trouver, facile d'accès, très sympathique. Et je te remercie beaucoup de ce temps ensemble. Avec plaisir de te suivre pour la suite.
Merci à toi, c'est un énorme plaisir.
Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez. Thank you.
I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.